Vous êtes avec SBS French.
Au sommaire de cette édition, l'Australie méridionale enregistre un seul cas de COVID-19 alors que cet état du sud de l'Australie se prépare à déconfiner. Et décès de Daniel Cordier, le grand résistant et secrétaire de Jean Moulin. Et Donald Trump inaugure une nouvelle stratégie pour se maintenir au pouvoir. L'Australie méridionale a enregistré un seul cas de COVID-19 ce samedi, alors que cet état du sud de l'Australie s'apprête à lever son confinement. Le nouveau cas est un contact proche d'un cas déjà connu lié au cluster du centre commercial de Parafield au nord d'Adélaïde. Près de 5400 personnes sont liées à ce cluster et sont actuellement en quarantaine et les autorités sanitaires essayent de localiser 40 autres personnes liées à ce foyer. Le premier de l'Australie méridionale, Stephen Marshall, a confirmé la levée du confinement à 23h59 ce soir tout en soulignant que cela ne signifie pas pour autant qu'il faut lever la garde.
We are not out of the woods yet. The expert health advice that we have received is that we are still managing a very dangerous cluster. And although we are reducing those restrictions, we are still very concerned about this cluster. And there are still many people that we need to identify and put into a quarantine situation pending testing results.
Et pendant ce temps-là, le Victoria a enregistré une 22e journée consécutive sans COVID-19 ni décès du virus. Le Victoria ne compte plus qu'un seul cas de COVID-19 et un cas d'infection potentielle qui avait été dépisté hier a été déclaré négatif. Entre-temps, les autorités sanitaires du Victoria ont appelé les habitants des quartiers du sud-ouest de Melbourne à être vigilants, ce après la découverte de traces de COVID-19 dans les égouts près d'Altona, un des quartiers du sud-ouest de la capitale du Victoria. Martin Foley, le ministre de la Santé du Victoria, a enjoint les habitants de ces quartiers du sud-ouest ainsi que toute autre personne qui se serait rendue sur les lieux entre le 16 et le 18 novembre dernier de se faire dépister, surtout si ces personnes présentent des symptômes de COVID-19 aussi minimes que ces symptômes puissent être.
Could mean that there is someone in the community that we've missed. It could mean that someone has been traveling through the community and has left the virus behind. Or it could mean that the virus has been shed as pre-existing cases have, through their own processes, started to shed the virus from their body.
On reste toujours en Australie où le plus haut responsable militaire du pays a admis jeudi l'existence de preuves crédibles établissant que les forces spéciales australiennes avaient tué illégalement au moins 39 civils afghans et non combattants après la publication d'une enquête menée pendant des années. Hélène Persson, directrice de Human Rights Watch, espère que les coupables seront jugés rapidement.
Afghans have already waited many years for justice. Many of these abuses took place in 2012, 8 years ago. You know, I think we want to see this process move quickly forward to hold the perpetrators to account.
Et Abdul Ghaffar Stanikzai, un militant des droits de l'homme afghan basé à Nuruzgan, dit avoir tenté de signaler des violations des droits de l'homme commises par les troupes australiennes en 2012, mais ses appels sont restés sans suite. Il espère quant à lui que l'enquête en cours va enfin soulager les familles des victimes.
The Australian government is accepting that something was wrong and we need to fix that. So that's the biggest thing, and I feel much happier and much proud that I was part of these things.
Entre-temps, le chef des forces armées australiennes, le général Angus Campbell, a présenté ses excuses au peuple afghan pour tout acte répréhensible de la part des soldats australiens, tout en soulignant que certaines patrouilles ont fait fi de la loi, des règles ont été enfreintes, des histoires inventées, des mensonges racontés et des prisonniers tués. Daniel Cordier, grand résistant et ancien secrétaire de Jean Moulin, est mort à l'âge de 100 ans ce vendredi 20 novembre. Il était l'un des deux derniers compagnons de la Libération, un ordre créé par le général de Gaulle en 1940 en tant que chef des Français libres. Toute sa vie, Daniel Cordier œuvra pour la mémoire de Jean Moulin, n'aura de cesse Honora de Cesse, un archiviste rigoureux reconnu par les historiens eux-mêmes, de documenter la résistance qu'il a dépeinte au quotidien avec ses zones d'ombre et son impossible union. Emmanuel Macron a annoncé qu'un hommage national lui sera rendu. Et toujours en France, on signale que le pic de la seconde vague de Covid-19 a peut-être été franchi, selon les autorités sanitaires. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a tenu à signaler que cela ne veut pas dire pour autant qu'il faut baisser la vigilance. Il a tout de même annoncé que le confinement n'est pas terminé, même si on parle de l'alléger prochainement. Le président de la République doit dévoiler des nouvelles grandes lignes du protocole sanitaire lors d'une allocution mardi prochain à 20h. Emmanuel Macron va également lever le voile sur la prochaine campagne de vaccination en France. La grande question en France en ce moment, c'est le calendrier d'ouverture des petits commerces à quelques semaines des fêtes de fin d'année. Et comme chaque vendredi, des manifestants sont descendus dans la rue hier pour protester contre les restrictions liées au Covid-19 dans le Pays basque. Juliette Gerbrand de RFI signale que la mobilisation ne faiblit pas, même si le gouvernement a répondu à certaines demandes des manifestants.
SOS, c'est la ruine, ne nous laissez pas tomber. Voilà ce qu'on pouvait lire sur les pancartes du cortège. Ressus tient un café avec deux employés, il est déçu par les annonces.
S'ils veulent qu'on reste fermé, il faut une vraie compensation. On doit payer l'eau, l'électricité, la sécu, le loyer. On est loin du compte.
Ichacho, elle, tient le bar Pata Negra, elle est amère. Comme beaucoup, elle pense que la profession a fait tout ce qu'elle pouvait.
C'est pas faute d'avoir sans arrêt nettoyé, désinfecté et d'avoir fait la police pour expliquer aux gens de rester assis. On a appliqué toutes les règles qu'on nous impose et en fait, ça n'a servi à rien. C'est injuste, décevant et triste en fait.
Ce matin, à l'avant du cortège, les taxis étaient aussi venus dire leur solidarité.
Le secteur nous donnait beaucoup de travail, mais depuis que les bars et restos ont fermé, on est à l'arrêt. Il n'y a plus de vie le soir, donc les gens ne prennent plus de taxi. On a perdu plus de 70% de notre activité.
Delaira déplore le couvre-feu qui commence à 22h ici. La fermeture de la restauration a des répercussions en chaîne qui vont des entreprises de nettoyage aux petits commerces. Eux sont ouverts, mais leurs clients se font rares.
Aux États-Unis, alors que les démarches juridiques de l'équipe du président Donald Trump s'enlisent devant les tribunaux ou sont carrément à l'arrêt ou sont rejetées, Donald Trump intervient désormais directement pour persuader les élus républicains de renverser les résultats des élections du 3 novembre dernier en sa faveur. Didier Combo, essayiste et spécialiste des USA, revient sur la stratégie de Donald Trump au micro de RFI.
Il a invité à la Maison-Blanche des représentants de l'Assemblée du Michigan pour essayer de faire que les grands électeurs qui seront nommés par l'État soient des républicains qui voteront donc pour Trump. Donc c'est quelque chose de tout à fait inédit, ça ne respecterait pas le vote populaire. Mais néanmoins, c'est quelque chose qui est dans la Constitution, c'est tout à fait possible. Et ce qui est possible également, c'est que la gouverneure, qui est démocrate, choisisse ses propres grands électeurs, et il y aura donc deux séries de grands électeurs pour le même État, et c'est au bout du compte le Congrès des États-Unis qui tranchera. Mais dans ce cas-là, la Chambre s'exprime non pas avec l'ensemble des représentants, mais s'exprime avec des représentants pour chaque État. Tous les États sont à égalité. Et si on prend les États, là, ce sont les républicains qui sont majoritaires.
Et démission hier du ministre arménien de la Défense, David Tonoyan. Cette démission intervient alors que l'Azerbaïdjan a récupéré le contrôle du district d'Agnam, cédé par les séparatistes arméniens du Haut-Karabakh au terme d'un accord de fin des hostilités sous patronage russe, un accord de fin des hostilités qui a mis fin à 6 semaines de guerre. Vincent Souriau de RFI revient sur cette rétrocession d'un territoire arménien à l'Azerbaïdjan.
Agdam aujourd'hui, Kelbajar dans 5 jours et Lachin le 1er décembre. L'Azerbaïdjan récupère ses territoires situés à la lisière du Haut-Karabakh. C'était l'une des conditions prévues par l'accord de cessez-le-feu négocié sous l'égide de Moscou. Le Haut-Karabakh pourra continuer d'exister, mais amputé d'une partie de son périmètre qui est donc remis sans combattre à l'Azerbaïdjan. Le district d'Agdam, c'est un no man's land, comme l'on dit en anglais. Une ville fantôme et une banlieue inhabitée qui servait de base arrière aux soldats arméniens. Ces troupes arméniennes avant d'abandonner les lieux hier, ont pris soin de détruire leurs installations militaires. Et c'est aussi le cas de certains habitants qui ont voulu faire table rase avant l'arrivée de la délégation azerbaïdjanaise. On a vu des gens abattre leur bétail, récolter en urgence les fruits qui poussaient dans les plantations et même parfois mettre le feu à leur domicile pour ne pas que leur maison soit occupée par l'ennemi. Il y a un véritable antagonisme, un véritable sentiment de détestation entre ces deux peuples, car dans les années 1990, c'est l'Arménie qui avait envahi ces zones et chassé la population à l'époque majoritairement azerbaïdjanaise. Aujourd'hui, l'histoire se répète en sens inverse et c'est l'Azerbaïdjan qui reprend possession de ces territoires.
Et quelques nouvelles en bref du continent africain. Eh bien, en Ouganda, le bilan des violences depuis mercredi est monté à 28 morts selon la police. Ces violences ont éclaté à Kampala après une nouvelle arrestation du populaire chanteur Bobby Wine, qui est aussi un des candidats de l'opposition à la présidentielle ougandaise de janvier 2021. Et Fatih Bachaga, le ministre libyen de l'Intérieur du gouvernement d'entente national, le GNA, effectue une visite de 3 jours à Paris. Arrivé le 18 novembre à Paris, Fatih Bachaga a été reçu par le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian, ainsi que par son homologue Gérald Darmanin. D'autres rencontres étaient prévues hier au ministère de la Défense. Fatih Bachaga est un poids lourd à Tripoli et l'un des acteurs clés de la scène libyenne. Il dit répondre à l'invitation de la France alors que nombreux sont ceux dans le camp de l'Ouest libyen à contester cette visite. Et les affrontements se poursuivent dans la région du Tigré en Éthiopie entre l'armée fédérale et les troupes du parti dissident tigréen, le TPLF. Hier, le gouvernement éthiopien a affirmé que ses soldats avaient encore avancé en direction de la capitale de la province, Mekele, tandis que le parti tigréen déclarait quant à lui avoir repris une ville aux troupes d'Addis Abeba. À présent, un coup d'œil météo à travers l'Australie pour ce week-end, ce samedi. Perth, 26 degrés, Adélaïde, 37, Melbourne, 26, Hobart, 21, Canberra, 29 degrés, Wollongong, 22, Sydney, 24, Newcastle, 25, Brisbane, 29, Cairns, 30 et Darwin, 35 degrés. Et un rappel des principaux titres de l'actualité de ce samedi. L'Australie méridionale enregistre un seul cas de Covid alors que cet État du Sud se prépare à déconfiner. Décès de Daniel Cordier, le grand résistant et secrétaire de Jean Moulin. Et Donald Trump inaugure une nouvelle stratégie pour se maintenir au pouvoir. C'est tout pour l'actualité. Après la pause, le magazine des sports.
Programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.